Le journal présenté par Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Émilie, bonjour à tous. Un puissant message contre l'inhumanité. Voilà comment Nadia Mourad a interprété le prix Sakharov qui lui a été décerné hier par le Parlement européen, prix pour la défense des droits de l'homme. Nadia Mourad est une femme yézidi, cette minorité kurdophone d'Irak, persécutée par les djihadistes de Daesh depuis 2014. Les hommes ont été tués par milliers, les femmes enlevées pour devenir des esclaves sexuelles. Le Parlement a donc voulu distinguer deux jeunes femmes de 18 et 23 ans. Leur portrait à Strasbourg avec Agnès Vogel.
Elles partagent la même histoire, douloureuse et tragique, ont vu leurs proches massacrés. Elles ont été enlevées, humiliées, violées, utilisées comme esclaves sexuelles, blessées dans leur fuite. Et malgré tout, Nadia Mourad et Lamia Haji Bachar avaient le sentiment de devoir survivre pour porter témoignage, a insisté le président du Parlement européen, Martin Schulz, dans l'hémicycle. Le courage de ces deux femmes, la dignité qu'elles représentent, dépasse toutes les descriptions. Elles exhortent l'Europe à se battre contre les horreurs et la stratégie génocidaire du groupe État islamique. C'est le combat que porte désormais Nadia Mourad, nommée à 23 ans ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains, également lauréate il y a 15 jours du prix Václav Havel du Conseil de l'Europe. Lamia Haji Bachar a 18 ans, elle vit désormais en Allemagne. Dans un message en kurde, elle se dit très heureuse de ce prix remporté au nom de toutes les femmes, enfants et victimes yézidis. La cérémonie solennelle aura lieu le 14 décembre à Strasbourg.
La guerre contre Daesh se mène aussi en ce moment à Mossoul, deuxième ville d'Irak. Un général américain affirme que près de 900 djihadistes ont été tués depuis le début de l'offensive il y a moins de deux semaines. Des combats dans les villages autour de Mossoul. Pour l'instant, les soldats irakiens et les peshmerga kurdes approchent des faubourgs. Entre 12 et 15 000 habitants auraient fui la ville. En Syrie voisine, c'est la Russie qui est pointée du doigt après le bombardement d'une école dans la province d'Idleb. On vous en parlait hier. L'UNESCO dénonce cette tragédie. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués. Un possible crime de guerre s'il s'avère que l'école a été sciemment prise pour cible. Or, seuls les Russes et le régime de Bachar al-Assad possèdent des avions pour mener une telle attaque. Moscou nie être l'auteur des frappes. Sur le terrain diplomatique, c'est dans la capitale russe que se retrouvent aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères russes, syriens et iraniens. Téhéran est l'autre allié de poids de Damas. Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
Alors que la communauté internationale multiplie ses accusations de crimes de guerre à propos des opérations militaires menées par Moscou et Damas dans la guerre que les deux alliés disent livrer contre le terrorisme en Syrie, l'axe stratégique de résistance contre le terrorisme constitué par la Russie, l'Iran et la Syrie, comme il aime se qualifier, doit se réunir aujourd'hui dans la capitale russe. Une part importante de cette rencontre entre les chefs de la diplomatie de ces trois pays sera dédiée à la situation en Syrie et à la lutte contre le terrorisme, l'occasion de faire le point sur l'affaiblissement des groupes terroristes, en particulier Daesh et l'ex-front al-Nusra, dont les territoires se réduisent progressivement. Mais Sergueï Lavrov abordera à n'en pas douter avec ses homologues syriens et iraniens l'épineuse question d'Alep, la deuxième ville de Syrie, assiégée depuis de longs mois mais qui n'est toujours pas tombée, équivaut à Moscou et Damas d'être accusée de crimes de guerre au vu de la multiplication des victimes civiles. L'occasion sans doute pour Sergueï Lavrov et l'iranien Mohammad Javad Zarif de faire pression sur leur homologue syrien Walid Mualem afin que Damas intensifie ses pourparlers avec l'opposition syrienne modérée. Moscou, comme Téhéran, veut éviter à tout prix que le régime syrien soit renversé. Un scénario qui, à leurs yeux, plongerait le pays dans un chaos similaire à celui qu'a connu l'Irak et qui caractérise aujourd'hui la Libye.
6h34 sur France Culture, la suite du journal avec vous, Amélie Perrier. Et en France, ce sont les primaires qui dominent l'actualité politique.
Primaire des écologistes, d'abord avec le débat des deux finalistes hier soir, Yannick Jadot et Michel Rivasi. Les deux eurodéputés ont semblé assez proches sur leur programme, moins sur la stratégie. Yannick Jadot ne croit pas en une victoire des écologistes à la présidentielle. Il mise davantage sur les législatives. En revanche, Michel Rivasi, elle, s'est demandé pourquoi on ne gagnerait pas, pourquoi il n'y aurait pas une bulle verte comme il y a une bulle Macron. Fin de citation. Primaire à droite ensuite, avec le match entre les deux favoris dans le Sud hier soir. Meeting d'Alain Juppé à Toulon, confiant, apaisé, lucide. Et de Nicolas Sarkozy à Marseille, beaucoup plus offensif, on y reviendra dans nos prochaines éditions. La colère des policiers ne retombe pas malgré l'enveloppe de 250 millions d'euros débloquée par le gouvernement. Les agents ne semblent pas vouloir rentrer dans le rang. Hier, pour la première fois, le préfet de police de Paris a donc reçu des policiers mobilisés sans leur syndicat. Bénédicte Robin.
et c'est assez rare pour être souligné. Depuis le début de cette gronde, il y a bien eu des réunions avec les préfets dans les départements, mais en présence des représentants syndicaux et de la hiérarchie. Là, 7 policiers frondeurs d'Île-de-France, repérés notamment dans les médias, seuls face au préfet de Paris et au numéro 1 de la police parisienne et de la Petite Couronne, pour 2h30 de dialogue et d'écoute, commente un des policiers présents, avec tout de même un petit rappel à l'ordre assorti d'une menace à peine voilée concernant de possibles sanctions en cas de nouvelles manifestations non déclarées. Mais la satisfaction est tout de même là. Ils sont certes convoqués, mais reçus. C'est la preuve qu'ils comptent. Ils ont pu dire pourquoi les annonces du gouvernement sont insuffisantes. Un chèque de 250 millions d'euros, c'est bien. Un budget annuel renouvelé, ce serait mieux. Mieux aussi que les commissaires, par exemple, cessent de recevoir des primes aux résultats, au nombre d'interpellations, car le travail à la statistique n'en est pas un, dit-il. Et d'autant plus lorsque la hiérarchie montre des signes d'hésitation et de retenue quand il s'agit de certaines missions de terrain dans des quartiers sensibles, par exemple. C'est à une refonte du système qu'ils appellent, conclut ce policier, qui ajoute qu'un collectif est en train de se constituer avec un nom, un sigle, des porte-parole pour pouvoir organiser de prochaines manifestations en toute légalité, rapidement et hors des syndicats. Un mouvement inédit est peut-être en train de se construire.
Et la colère dans les rangs de la police, on y revient dans notre hashtag aujourd'hui à 7h30. L'idée avait séduit les associations de consommateurs et les scientifiques, mais au final, le test pourrait s'avérer décevant, celui d'un étiquetage nutritionnel. Un logo comme un feu tricolore élaboré par les chercheurs de l'INSERM avec une pastille rouge pour un produit très gras, très sucré ou très salé. Mais les industriels ont proposé leurs propres étiquettes plus neutres. Une mascarade, dénonce Foodwatch. L'ONG demande l'arrêt du test. Explication avec Chloé Stevenson.
Parmi les 4 logos qui sont testés en ce moment, il y en a un qui a été créé par la grande distribution elle-même et l'autre qui a été créé par l'industrie agroalimentaire. Il y a un vrai problème de conflit d'intérêts à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi plusieurs membres du comité scientifique qui ont alerté sur, là encore, les risques de conflit d'intérêts parce que parmi leurs collègues, beaucoup avaient des liens directs avec l'industrie alimentaire. On estime que c'est crucial que tout le monde, quel que soit le temps qu'il a quand il fait ses courses, quel que soit son budget, quel que soit son niveau d'éducation, puisse très rapidement savoir réellement si l'un ou l'autre produit a des meilleures qualités nutritionnelles. On met souvent la responsabilité sur les consommateurs d'acheter des choses qui seraient mauvaises pour leur santé, etc. Le vrai problème, c'est que pour le moment, l'offre est complètement indéchiffrable pour la majorité des gens. D'où l'importance d'un étiquetage nutritionnel. Et on a salué l'initiative de Marisol Touraine lorsqu'elle a annoncé avec la loi de santé qu'elle voulait justement introduire un étiquetage nutritionnel comme celui-là. Maintenant, on déchante et on est complètement scandalisé parce qu'on s'aperçoit que dans sa mise en œuvre, la promesse est absolument pas tenue. Or, c'est un enjeu de santé publique, que ce soit l'obésité ou le diabète. Les maladies chroniques qui sont liées à l'alimentation sont en explosion en ce moment en France et en Europe.
Chloé Stevenson de l'ONG Foodwatch, elle était interrogée par Mathias Kern. Le temps de ce vendredi pour finir, ce sera calme mais gris au nord, ensoleillé au sud. Il ne fait pas chaud ce matin, 3 à 6 degrés de la Lorraine à l'Aquitaine, 5 à 10 degrés ailleurs. Et cet après-midi, on prévoit 12 à Colmar, 15 à Paris, 19 à Bordeaux et 21 degrés pour Nîmes.